Chapitre 3, 17 juillet 1453, la bataille de Castillon. Dans l'inconscient collectif, la grande victoire du règne de Charles VII, hormis Patay et l'épopée de Jeanne d'Arc, s'est déroulée en Normandie, aux portes de Bayeux, à Formigny précisément, le 15 avril 1450, l'Ost de France conduite ou conduit, l'usage hésite, par le comte de Clermont, y a battu des Anglais surpris par l'irruption inopinée sur le champ de bataille de Bretons menés par Richemont. Or, dans la foulée de Formigny, c'est toute la vallée de la Basse-Seine qui est rentrée bien gentiment dans le giron du roi Charles. Pourquoi, après un tel succès, s'arrêter en si bon chemin ? Charles VII ne peut accepter que la Guyenne, conquise par les Plantagenets deux siècles plus tôt, demeure possession du roi d'Angleterre. Envoyé la reconquérir, le comte de Penthièvre entre dans Bordeaux au printemps 1451. Il impose aux Gascons anglophiles un inflexible traité. Au nom du roi de France, un nouveau maire perpétuel, Jean Bureau, trésorier général de France, met la ville en coupe réglée avec l'aide de son frère Gaspard, grand maître de l'artillerie. Mauvaise politique, grosse de soulèvements à venir, mais dans l'esprit des Français, c'en est du moins fini de la guerre. L'Anglais, finalement bouté hors du royaume, a fait place nette. Voir. On ne raye pas d'un trait de plume trois siècles et plus de relations suivies et d'habitudes. Nostalgiques de leur autonomie, les négociants bordelais ne tolèrent pas les restrictions mises par le roi de France à leurs droits communaux. Ils regimbent, ils conspirent et dépêchent même en Angleterre une délégation chargée de supplier Henri VI de leur venir en aide. « Sa gracieuse majesté ne peut décemment pas abandonner sa chère Guyenne. » Le Lancastre soupire, une telle demande ne pouvait plus mal tomber. N'est-il pas lui-même empêtré en Angleterre dans un sombre conflit dynastique, la guerre des deux roses ? Il n'empêche, le cas est trop important pour qu'on le néglige, c'est entendu. 3000 hommes seront envoyés sur le continent sous les ordres de John Talbot, premier comte de Shrewsbury. Talbot, Talbot comme on dit en France, surnommé l'Achille anglais, est un chef de guerre octogénaire certes auréolé de ses hauts faits, même s'il fut largement défait à Patay face à Jeanne d'Arc, mais depuis trop longtemps blanchi sous le harnais. L'homme qui jadis a galvanisé des armées entières est-il encore de santé à s'opposer à des Français ragaillardis par leur victoire et certains de leur bon droit ? Car ces derniers, alliés à ces Bretons qui avaient décidé de la victoire de Formigny, ces derniers n'ont pas l'intention de voir les Anglais reprendre pied en Aquitaine. Pourtant, c'est sans coup férir que le vieux guerrier et son corps expéditionnaire reprennent le contrôle de Bordeaux. Débarqué le 20 octobre 1452, le bon Ray Talabot, le bon roi Talbot, reçoit des Bordelais un accueil triomphal, tant du peuple que des seigneurs locaux. Avec les Gascons ralliés, il se trouve à présent à la tête d'une armée assez considérable, plusieurs milliers de soldats, grossit bientôt d'un second renfort de 2000 hommes, arrivés d'Angleterre sous la conduite du seigneur de Lille, le propre fils de Talbot. Comment s'étonner dans ces conditions que Bordeaux soit devenu l'obsession du roi de France, à tout le moins son horizon. Dès les beaux jours de 1453, un corps d'armée, fort de 9000 hommes au bas-mot, descend la vallée de la Dordogne. À sa tête notamment, les maréchaux de Loéac et de Culan, mais aussi le célèbre Dunois, le bâtard d'Orléans, oncle du roi par la main gauche et ancien compagnon de Jeanne d'Arc, bien sûr. Sans oublier, forcément, les frères Bureau. Plutôt que de marcher bride abattue sur Bordeaux, ces stratèges préfèrent établir leur camp en amont, à l'est de Castillon. Le gros des troupes occupera une position retranchée entre les deux cours d'eau, la Dordogne au sud et l'un de ses petits affluents tout sinueux, la Lidoire. Le camp est édifié en surplomb d'un gué nommé Pas de Rosan. Un détachement occupera aussi, au nord de Castillon, le prieuré de Saint-Florent, tandis que la cavalerie bretonne protégera le camp français dans sa partie septentrionale. Tous ces soldats servant les lys, bien équipés, bien commandés, se préparent à ce qu'ils perçoivent comme un affrontement décisif. Dans la ville, on s'apprête à tenir un siège. John Talbot a fait renforcer les murs, serrer les vivres, fourbir les armes. mais son entourage lui conseille de prendre les devants et de fondre sur les Français avant qu'ils n'aient eu le temps de rassembler toutes leurs forces. Faut-il croire ceux qui affirment qu'en poussant ainsi à l'attaque, les seigneurs gascons voulaient avant tout sauver leur vendange ? Le fait est que les boutefeux accourent de tous les environs, agitant maints exemples de la brutalité française et adjurant le chef anglais d'intervenir sans tarder, à commencer par les Castillonnais, qui réclament du secours à cor et à cri et supplient sa seigneurie d'ordonner au plus vite une sortie. Trop bon cœur, trop grand âge, toujours est-il que Talbot ne sait pas résister à tant de supplications et qu'il finit, le 16 juillet, par y céder. Il conduit donc Anglais et Gascons hors les murs et leur fait remonter les bords de la Dordogne jusqu'à Libourne, où tout le monde fait halte pour la nuit. Certains prétendront que dans les chais locaux, bien des barriques furent mises en Perse. Sobres ou non, les fantassins devancent en tout cas l'artillerie. Bombardes et bouches à feu sont encore loin derrière lorsqu'à l'aube du 17, piétons et cavaliers reprennent la route de Castillon, dans la boue, dans la glaise, gorgée d'eau car les pluies sans fin ont détrempé le pays. Alertés de l'avance des Bordelais, les troupes du roi de France se sont mobilisées. Bien à l'abri dans leur retranchement, elles se préparent au combat. Leurs pièces d'artillerie seront installées de sorte qu'elles rendront le fossé du camp difficile à franchir. En face, Talbot demeure méfiant. Mais une fois de plus, des interventions extérieures vont avoir raison de sa prudence native. Apprenant de ses informateurs que les Français seraient en train de lever le camp, il prend le parti d'attaquer sans plus tarder et de prendre en chasse les fuyards. Anglais et Gascons, épuisés et en désordre, sont donc sommés de se remettre en marche. Plus tard, l'historiographe Jean Chartier décrira la stupéfaction du chef anglais, découvrant contre toute attente des artilleurs campés derrière leur solide défense. Talbot fut fort ébahi, dit-il, quand, de ses yeux, il vit les belles fortifications qu'avaient faites les Français. Cependant, Talbot et sa compagnie arrivèrent droit à la barrière, croyant forcer d'emblée l'entrée du parc. Alors commença grand et terrible assaut, où se passèrent de grandes vaillances de part et d'autre, où il fut merveilleusement combattu, main à main, à coups de hache, de guisarmes, de lances et de traits, moult vaillamment. Ce chapelet, c'est-à-dire ce combat, dura l'espace d'une grosse heure, car les Anglais y revenaient toujours avec grande ardeur, et aussi les Français ne s'épargnaient pas à les bien recevoir. L'objectivité oblige à préciser que nous ne possédons de ces événements aucun récit provenant de témoins oculaires. Une chose est certaine cependant, les artilleurs français mettent la mêlée à profit pour ajuster leurs canons et les placer en ordre de tir. Attaqués presque à bout portant, les Anglais assaillants seront bientôt dévastés par la canonnade. Les dragons du roi Charles crachent leurs flammes tous en même temps, dans une seule direction. Pour les Anglo-Gascons, c'est la défaite assurée, leur cavalerie est foudroyée à même enseigne que la piétaille, les cavaliers doivent mettre pied à terre et venir combattre au corps à corps. C'est alors que les Bretons, cantonnés par-delà le lit de la Lidoire, surgissent à leur tour et viennent prêter main forte aux Français. Plus rien ne résiste. Anglais, Gascons, assaillis de tous côtés, cherchent à fuir, sont rattrapés, certains iront se noyer dans la Dordogne. Le vieux Talbot lui-même voit son cheval tué sous lui d'un boulet de couleuvrine qui lui brise le fémur. Des Français l'achèveront à la hache sans l'avoir reconnu. En effet, en 1450, il avait été capturé et n'avait recouvré la liberté qu'en échange du serment fait à Charles VII de ne jamais porter les armes contre lui. Aussi n'avait-il à Castillon ni armure, ni armes, ni bannière. Ainsi finit ce fameux et redouté chef anglais, écrira Jean Chartier, qui passait depuis si longtemps pour l'un des fléaux les plus formidables et un des plus jurés ennemis de la France. Deux de ses fils seront aussi tués, dont le baron de Lille et plusieurs de ses compagnons d'armes. Au final, ce sont près de 4000 Anglais et Gascons qui auront été mis hors d'état de combattre à Castillon, dont sans doute plus de 300 passés de vie à trépas, contre une centaine de tués et de blessés seulement du côté français. Cette victoire des Français et de leurs alliés bretons se révèle donc complète. Leurs troupes entreront dans le bourg 3 jours plus tard, en attendant de menacer Bordeaux et de s'en faire ouvrir les portes à la mi-octobre. La ville est punie. Franchises et privilèges lui sont retirés et les liens de commerce si florissants qu'elle avait su nouer avec l'Angleterre sont coupés. Bientôt, on verra s'ériger à son pourtour de puissantes forteresses, moins destinées à la défendre sans doute qu'à l'intimider. Fort Louis au sud, Fort du Ha vers l'ouest et du côté de la Garonne, Château Trompette. Il faudra de la patience aux Bordelais qui devront attendre le règne de Louis XI pour que leur soit rendu leur parlement et leur liberté. Plus largement, c'en est fini de la Guyenne anglaise, au moins sur le papier, car à la vérité, dans le secret des consciences, les gens du cru ne cesseront jamais vraiment de rêver d'Angleterre. Et si l'on en croit les plus nostalgiques, il semble même que la figure du bon roi Talbot fasse toujours l'objet, le 17 juillet venu, de commémorations discrètes, certes, mais d'autant plus fidèles.